des congestions urbaines, et de l'autre côté, des Français qui disent que c'est une voiture qui est synonyme de liberté de travail.
Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de transport collectif en ruralité, notamment, et qu'on n'a pas investi suffisamment dans ce domaine-là, que la voiture est toujours reine dans ces régions-là?
Entre autres pour ça, et vous avez
est-ce que c'est possible? Parce que dans des
bien sûr, c'est possible. D'abord, une fois de plus, il faut repartir de la question écologique. S'il n'y avait pas la catastrophe écologique qui était en cours, on ne se poserait pas la question. Donc il faut quand même le rappeler. Donc est-ce qu'on laisse faire les choses ou est-ce qu'on laisse les émissions de gaz à effet de serre se maintenir alors qu'il faut les décroître de manière forte? Deuxième chose, vous avez prononcé un mot important, c'est les alternatives. Donc il y a effectivement les transports collectifs qui sont absolument essentiels. Déjà dans les métropoles, la question se pose totalement différemment de
vélo,
la campagne ou de la Lozère. Moi, je peux vous parler de la Lozère.
Voilà,
c'est très compliqué dans le rural. Donc déjà, dans les villes, il y a deux facteurs qui peuvent jouer, les transports collectifs, un changement de culture pour le vélo, et pour le vélo électrique, qui est beaucoup moins polluant. Pourquoi? Parce que une batterie de vélo, c'est 300 grammes de lithium. Ouais. Une voiture une Zoé, par exemple, ça va être 300 kilos. Donc, vous voyez, il y a une différence énorme. Donc, le vélo, le transport en commun,
l'urbanisme,
la marche,
la façon dont sont construites les villes.
Et se poser aussi une question sur l'inégalité. Parce que qu'est-ce qui fait aussi que les gens sont obligés d'aller vivre et travailler de plus en plus loin autour des grandes villes? C'est parce que le centre des villes est pris par les hyper riches et devient inaccessible. Donc,
vous voyez,
il y a une politique sociale à avoir.
Alors, on va évoquer avec Nadia d'autres pays, d'autres zones, d'autres lieux.
Oui, parce que si on sort effectivement de la France et même de l'Europe, ailleurs dans le monde, la question c'est pas comment se débarrasser de la voiture, c'est comment se débarrasser de son vélo, je caricature, mais en tout cas c'est un phénomène qu'on observe en Chine par exemple de manière assez vertigineuse, puisque dans les années 90, les habitants de Pékin effectuaient 60% de leurs déplacements en deux roues, c'est tombé en deux décennies à peine à 40% et même à 20% dans le sud du pays, à Shanghai ou à Canton. Et à l'inverse, on le voit, la voiture se porte très bien, les ventes ont enregistré une hausse très spectaculaire par rapport à d'autres pays, de près de 8%, c'est en juillet dernier, et même de 30% pour les véhicules dits haut de gamme. On dénombre aujourd'hui 116 millions de voitures particulières individuelles en Chine, contre 21 millions seulement il y a 15 ans. Et d'ailleurs, en ce moment même, se tient le grand salon de l'automobile de Pékin, et la foule, on voit les images, s'y presse, malgré les conditions sanitaires. La voiture, on le voit, en tout cas en Chine, c'est vraiment devenu un symbole de richesse, de statut social, et on observe peu ou prou le même phénomène dans un autre pays, en Inde. Alors là, on part quand même de beaucoup plus loin, parce qu'aujourd'hui, on compte à peine 30 voitures pour 1000 habitants. C'est 20 fois moins qu'en France, par exemple. Et pour beaucoup de constructeurs, c'est un nouvel Eldorado, la Chine, pour les voitures. Les groupes Volkswagen et PSA dont on parlait viennent, par exemple, de s'y installer. Ils proposent des modèles qui sont adaptés aux populations, adaptés aux revenus évidemment, et adaptés également à la mauvaise qualité des routes. On parle de SUV low cost pour la population indienne en ce moment, Christine Cardellan. Est-ce qu'on peut se passer de voitures ici s'il va s'en vendre des milliards dans les années à venir, puisque ce sont les projections, en tout cas en ce qui concerne l'Asie?
Mais en fait, on ne s'en passe pas ici. C'est-à-dire qu'on n'est pas si différent de la Chine et l'Inde. Il y a 2,5 millions de véhicules de plus en circulation en France entre 2007 et aujourd'hui. Et 65% des déplacements individuels se font en voiture en France.
Donc on voit bien qu'il y a quand même un décalage entre l'Europe, la France et ces pays-là.
Ces pays-là rattrapent, mais ils arrivent, ils ne sont pas encore à notre niveau. Nous, on a 40 millions de véhicules en France. Je disais 2,5 millions de plus sur 40 millions. La Chine, vous avez dit 116 millions, je crois. Bon, ils n'ont jamais que trois fois plus de nous pour une population.
Parce que ça veut dire quoi? Que la transition vers des modes alternatifs est un peu illusoire. Elle ne viendra jamais remplacer la voiture dans nos campagnes.
Je crains que ce soit un sentiment, je ne dirais pas de bobo, mais en tout cas de gens des villes. C'est-à-dire qu'à la campagne, mais vous le disiez un peu tout à l'heure, on ne peut pas se passer de voitures. Donc le nombre de voitures continue à progresser en France, malgré l'augmentation des transports, enfin, du nombre de modes de transport, et notamment tous les transports en commun. Donc il faut regarder les choses en face.
Cette différence.
Soit on se dit c'est une question de bobo, soit on dit il y a une question écologique qui est réelle.
Là, je peux. Et qui est globale.
Je vais y venir. Mais c'est soit les bobos, et puis on continue, et puis on change rien, parce que c'est impossible, et puis voilà, ça s'est toujours fait. Ou soit on dit, il y a une question écologique, on rechange nos esprits, on retravaille ensemble.
Bon, mais est-ce qu'on va dire aux Indiens,
d'abord, moi, je dis rien aux Indiens, je dis rien aux Chinois, je dis rien aux Africains, je dis, faisons déjà bien en France, faisons bien en Europe, et on ne va pas donner de leçons de colonialisme écologique ou autre à quiconque, faisons bien chez nous. Et moi, je me dis que si chez nous, en Europe, on arrive à changer les choses, peut-être que ça va être intéressant pour d'autres qui auront envie d'imiter. Ouais. Donc, premier point. La Chine et l'Inde, est-ce que, pour reprendre le point goulag de Monsieur Le Maire, est-ce qu'on a envie de vivre dans la Chine et dans l'Inde, des pays extrêmement inégalitaires et d'un niveau de pollution absolument catastrophique? Et l'évolution de la Chine, qui a des aspects intéressants par ailleurs, mais ça a été aussi une explosion de la pollution depuis 30 ans. Donc, est-ce qu'on accepte d'aller vers ça? Ben non.
Fabien Neuvy.
Oui, alors juste une remarque par rapport aux chiffres que vous donniez, qui sont à la fois tout à fait justes et très intéressants, c'est qu'en fait on constate qu'il y a une corrélation très forte entre le niveau de vie d'un pays, le niveau de développement d'un pays et son taux de motorisation. Donc quand il y a une classe moyenne qui commence à arriver, un de ses premiers achats, c'est la voiture, parce que c'est le moyen le plus simple, le plus rapide pour pouvoir se déplacer. C'est pour ça que la Chine est devenue le premier marché mondial. L'Inde progresse, mais l'Inde a d'autres difficultés qui sont liées aux infrastructures routières. Mais c'est vrai que le potentiel pour les constructeurs automobiles mondiaux, qu'ils soient nord-américains, asiatiques ou européens, il est évidemment dans les pays émergents, avec de très belles perspectives de croissance à moyen terme.
Je peux rebondir là-dessus très rapidement.
Mais vous avez 10 secondes.
Avec 10 secondes. Eh bien, on peut changer le modèle de ce qui est désirable. Et par exemple, le vélo est en train de devenir, en France, dans certains lieux, désirable. Donc, progressivement, ça change. Et avoir un SUV devient peut-être moins désirable.
Merci.